Bien, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir pour cette séance autour de Kafka pour laquelle nous avons le plaisir, dans la série Relire avec, de recevoir Joseph Mouton. Joseph Mouton est philosophe, critique d'art. Il enseigne l'esthétique à la Villa Arson à Nice, École des Beaux-Arts supérieurs de Nice. Il est l'auteur de plusieurs essais philosophiques ou sur l'art, dont Misère de Dieu, il y a quelques années, chez Flammarion. Plus récemment, Delenda West, publié par Les Petits Matins, dont il donnera une nouvelle partie, les parties 2 et 3, je crois, au mois de mai de cette année, toujours chez le même éditeur. Et la soirée, ce soir, est donc consacrée à Kafka, dont il va nous parler dans un premier temps. Après quoi, comme le veut la coutume, nous regarderons un film consacré à cet écrivain. Voilà, merci.
Merci Jean-Pierre. Je tiens aussi à remercier Marianne Alphand qui m'a invité à cette séance. Et donc je tiens à les remercier tous les deux puisque nous sommes dans une passation. À la tête des revues parlées. Je suis invité dans cette passation. J'y vois comme un honneur. premier point, je vais essayer de faire un exposé d'à peu près 45 minutes. Et je prends ma montre pour le signifier. Un exposé qui porte, je l'ai annoncé, je crois, sur le programme, sur la question comment est-ce que je suis kafkaïen. Voilà. Alors, cette question est à distinguer, sans doute, de la question de comment être kafkaïen, hein, ou comment peut-on être kafkaïen. Enfin, vous voyez que dans la deuxième formulation, il y a une sorte d'universalisation possible, c'est-à-dire qu'on pourrait être kafkaïen, au fond, et ça ne me concernerait pas, moi, strictement. En réalité, la différence entre les deux questions n'est pas si forte que ça, parce que si moi je peux être kafkaïen, bon, d'autres sans doute peuvent l'être aussi. Je raisonne comme ça, voilà. Si vous voulez, j'essaierai de montrer comment je suis kafkaïen, si vous voulez, et en pensant, en espérant que en montrant ça, pas en le démontrant bien sûr, mais en le montrant, en le suggérant en tout cas, ça peut donner lieu à effectivement. Au mieux une émulation. Voilà. Alors, le premier moment de mon exposé. Un moment dans lequel je vais essayer de suggérer comment dans ma vie il m'a été donné de devenir kafkaïen, ou plutôt comment il m'a été révélé que j'étais kafkaïen. Voilà, c'est ça. Je vais vous lire un petit peu ce que j'avais écrit à ce propos. Ça commence comme ça. Kafka est un conteur ou un fabuliste. Madame Brigitte Vergne-Quin, c'est elle qui vient de... Bon, il n'y a pas longtemps qui a réalisé l'édition de Kafka dans les classiques modernes du livre de poche. Et c'est une sorte de compilation intelligente tout à fait en résonance avec les dernières recherches sur la philologie kafkaïenne. Donc, je vous recommande ce livre. Donc, Madame Brigitte Vergne-Quin y insiste, et elle y insiste aussi à dire que Kafka est un conteur, quelqu'un qui écrit des fables. Pour corriger quelque peu l'opinion de Deleuze et Guattari selon quoi les différents régimes d'écriture de Kafka se réparent les uns les autres d'une manière ascendante jusqu'à ce que le roman, qui est placé sous le signe de la machine pour Deleuze et Guattari, les romans de Kafka, jusqu'à ce que les romans réparent le défaut frustrant que représentent les nouvelles, qui, selon Deleuze et Guattari, sont consacrées au devenir animal. Et donc Deleuze et Guattari montrent d'une manière très logique et peut-être convaincante que, on ne peut pas se contenter, finalement, Kafka ne peut pas se contenter de ce format court, au fond, sans inachevé, et qu'il faut qu'il passe au roman. Et donc, courageusement, je dois dire, bien que ce ne soit pas si courageux que ça, puisque Deleuze et Guattari sont morts tous les deux. Mettons courageusement quand même, Madame Brigitte Vergne-Quin dit que, après avoir étudié très attentivement tous les écrits de Kafka, elle en est venue à se persuader, premièrement, que le classement en nouvelles et romans n'est pas si pertinent ni opératoire que le pensent Deleuze et Guattari, et d'autres auteurs d'ailleurs, Max Brod le premier, hein. Au fond, son idée, c'est que quand on regarde vraiment les textes, comme on peut les voir aujourd'hui, en allemand, les manuscrits, etc., on a une impression de fragmentation générale, c'est-à-dire on a vraiment, vraiment, vraiment des fragments partout. Certains de ces fragments peuvent se mettre un peu plus les uns avec les autres et former ce qu'on appelle des romans, mais... Kafka lui-même y tenait pour le procès, mais pour les autres, pas forcément. Par exemple, pour le château, c'est pas un roman. Le château, c'est une écriture, voilà. Mais pour Kafka, ce n'était pas un roman. Donc, premièrement, Madame Vergne-Quin pense que nouvelle roman, c'est faut pas exagérer, c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis, elle pense que, au fond, il y a cette sorte de fragment, si vous voulez, un peu qu'on peut trouver dans La Muraille de Chine ou bien dans les derniers textes de Kafka, aussi bien les derniers chapitres du château, qui sont un peu décousus, que les derniers textes comme « Recherche d'un chien » et puis le petit recueil de textes qui s'appelle « Un artiste de la faim » et qu'on traduit maintenant par « Un artiste du jeûne ». Voilà, cette sorte de format un peu fragmentaire qui correspond effectivement un peu à l'idée d'une nouvelle, mais ce n'est pas du tout une esthétique de la nouvelle, en fait. Hein. Ce sont plutôt des fragments, on va dire, voilà, que c'est là que Kafka se sent le plus à l'aise. Et effectivement, c'est donc dans des choses qui ressemblent plus à des contes ou à des fables. C'est que, au fond, le noyau de l'écriture de Kafka, il est là. Et cette Madame Vergne-Quin s'appuie sur, tout simplement, la correspondance de Kafka et le journal pour affirmer ça. Elle dit, on voit qu'à un moment, il se dit, là, vraiment, je me sens à l'aise. Voilà, là, je me sens à l'aise. Bon. La question était, je vous le rappelle, comment je suis devenu kafkaïen, ou plutôt comment il s'est révélé à moi que j'étais kafkaïen. Et cette question, au fond, elle a un rapport avec la fable. Et je le dirai comme ça, je vais vous raconter d'abord une fable qui peut indiquer comment il s'est révélé que j'étais kafkaïen. Cette fable est parfaitement véridique ou authentique, si vous voulez. Je m'en voudrais, en tout cas, que vous puissiez penser que je procède à quelque forme d'autofiction. Mais je l'appelle quand même fable, parce que c'est comme si une forme de narration kafkaïenne était à un moment venu ordonner quelques moments de ma vie, comme si elle avait pris ma vie pour matériau de sa narrativité particulière. Voici, je commence l'histoire. Je m'appelle Bernard Mouton. Quand j'ai discuté avec Madame Catherine Blangonnet, qui s'est occupée de mes voyages et puis de ma rémunération, je lui ai dit justement, attention, je m'appelle Bernard Mouton, parce que pour la SNCF et pour la banque, il n'accepte pas Joseph Mouton. Voilà. Donc, vous voyez, donc, en fait, je n'ai pas un nom de plume, j'ai un prénom de plume, si vous voulez. Je vais vous raconter comment est arrivé ce prénom de plume. Au début de ma vie, je voulais être écrivain, et je continue à le vouloir d'ailleurs. Mon père est un artiste, peintre, et maintenant dessinateur. Enfin, maintenant, il ne produit plus beaucoup, mais enfin, bon, il a passé la deuxième moitié de sa carrière plutôt dans le dessin, en fait. Il avait pris un pseudonyme, et qu'il a gardé d'ailleurs. Moi-même, lorsque j'ai écrit et publié mes premiers textes, j'ai pris aussi un pseudonyme. Et puis est arrivé un moment où il y avait quelque chose qui était plus qu'un texte, disons, dans une revue ou dans un catalogue, ou qui ressemblait un peu plus à un livre. Peut-être pas complètement un livre, mais enfin, ça avait l'allure d'un livre, et sur la couverture, il y allait avoir mon nom. Donc, mon pseudonyme. Et là, je me dis, non, c'est pas possible, tu peux pas. Tu peux pas mettre ce pseudonyme, ça ne marche pas. C'est difficile à dire pourquoi, mais j'avais ce sentiment. Donc, tu vas signer Mouton. Bon, il se trouve aussi que je m'appelle Bernard Maurice Joseph. Donc, je me suis dit, je vais quand même garder l'idée d'un pseudonyme, mais je vais prendre mon troisième prénom et je vais signer Joseph Mouton au lieu de Bernard. Ah, c'est ce que j'ai fait. Mon père a été furieux, absolument furieux. Je crois que c'est la querelle ouverte la plus violente que j'ai jamais eue avec lui. C'est comme si je le trahissais, parce que finalement, en ayant adopté un pseudonyme, qui d'ailleurs, lorsque j'y ai repensé un tout petit peu après, j'ai compris qu'il était très très proche du pseudonyme de mon père, en fait. En ayant adopté un pseudonyme, j'avouais une sorte de filiation par rapport à lui. Et en reprenant le nom propre, son nom à lui, Mouton, je le trahissais. Curieusement. Vous voyez ? Moi, dans mon esprit, en tout cas, il était clair que mon troisième prénom, bon, se trouvait être Joseph, très bien. Mais pour moi, Joseph, c'était Joseph K. Avant tout, bien sûr. Donc, je ne pouvais pas mettre non plus Joseph K. Mouton, ça aurait été un peu trop gros, peut-être. Mais pour moi, évidemment, c'était l'autorisation kafkaïenne. Au fond, c'était dans l'esprit de Kafka que j'allais m'appeler, que j'allais prendre un nom en littérature. Et voilà, j'allais prendre un nom kafkaïen. Je vous passe la suite. Après, c'est un nœud absolument invraisemblable, n'est-ce pas? C'est ce qu'on pourrait appeler le nœud du nom du fils. moins connu que le nom du nom du père, mais je vous assure que c'est formidable aussi. Hein. Moi je lui disais à mon père, je lui disais, mais écoute, il y a des gens, Corneille par exemple, c'est pas terrible Corneille. Bon. Alors, il me dit Mouton, c'est épouvantable, mais Corneille, Pas mieux, hein. Et Poussin, c'est ridicule, Poussin. Voilà, donc... je passe au point 3. Je vais vous dire quelques mots très rapidement de la kafkologie. La kafkologie est un terme que j'ai découvert sous la plume de Madame Vergne-Quin. Et elle veut dire par là toutes ces interprétations, finalement, dont Kafka a été affublé, encombré, etc. Enfin, il y a, si vous voulez, sur Kafka, vous le savez, bien sûr, peut-être vous-même pour y avoir malheureusement participé. Des projections spiritualistes, une tendance, par exemple, à voir chez Kafka une allégorie. Même aujourd'hui, on dit, même si on n'est pas dans les bas-fonds de la kafkologie, c'est-à-dire spiritualiste ou allégoriste, c'est-à-dire si on n'essaie pas d'interpréter Kafka comme un allégoriqueur, en quelque sorte, il y a quand même des gens qui disent que Kafka a été visionnaire. C'est-à-dire, et qu'est-ce qu'il a vu alors? Mais il a vu Auschwitz, bien sûr. Il a vu le nazisme. Et peut-être aussi le communisme. Si on est sérieux, on va dire non, ça c'est encore de la kafkologie, ça. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, si vous voulez, il faut voir ça. Tous les gens qui veulent parler de Kafka d'une manière authentique et décapante, je dirais enfin décapante, ceux qui veulent nettoyer Kafka de toutes les mauvaises lectures qui se sont incrustées comme des pommes pourries dans sa carapace, jusqu'à la rendre invisible, illisible et puante. Tous ces gens-là, ce sont les gens qui ont repoussé la kafkologie, justement. Et moi, qui arrive devant vous pour vous inviter à une relecture de Kafka, je ne peux faire moins que d'être dans les rangs de ces gens-là. C'est-à-dire d'être moi aussi un contempteur de la kafkologie, de vous proposer une relecture décapante, une relecture neuve, une relecture contre l'allégorie, contre le symbolisme, contre même le Kafka visionnaire, contre la sainteté de Kafka, contre tout ce qui a été déjà incrusté, n'est-ce pas, dans le texte de Kafka. Et je vais le faire très rapidement. Je vais le faire en disant, eh bien, moi aussi, je n'ai pas l'orgueil de différer de tous les anti-kafkologues. Et pour montrer mon humilité, je répéterai leur geste de nettoiement, quitte à le répéter contre eux-mêmes, contre les nettoyeurs de Kafka. Par exemple, bien sûr qu'il y a des lectures symbolisantes et spiritualisantes de Kafka. Ces lectures sont peut-être mauvaises et ineptes. Et Kafka lui-même dit, attention, pas d'allégories. Ne dites pas que ce sont des allégories lorsqu'il publie les deux nouvelles au début. Mais, et il a raison, bien sûr, mais les mauvaises lectures font partie de Kafka. Je dirais, soyons modérés, il ne faut pas tout décaper. Pourquoi y a-t-il tant de mauvaises lectures? Enfin, si on se place du point de vue des nettoyeurs. Et ça, ils n'en parlent pas, les nettoyeurs. Ils ne disent pas pourquoi il y a tant de mauvaises lectures. Et ils ne disent pas Kafka a permis ces mauvaises lectures. Parce que, moi je le dis, Kafka a permis ces mauvaises lectures. Donc elles font partie. Elles font partie de l'œuvre de Kafka. Et il faut les accepter. Après, Deleuze et Guattari, par exemple, qui sont très, très radicaux, disent Kafka écrit contre l'allégorie, contre l'allégorie, contre le symbole. Quand ils se mettent à parler de Joséphine la cantatrice, vous connaissez ce texte peut-être, ils disent Joséphine, c'est au fond l'artiste. Tel que Kafka le conçoit, et c'est aussi une figure de Kafka lui-même. Et le peuple des souris, eh bien, c'est la communauté juive. Mais si Deleuze et Guattari comprennent ça comme ça, on peut dire qu'ils ont une sorte de lecture un peu allégorique, non? Ou alors, le mot allégorie n'a aucun sens. Donc, il faut y aller mollo avec ça, avec l'allégorie. Attention, j'ai pas dit non plus, je suis pas en train de vous dire non plus que l'œuvre de Kafka est allégorique. Ça, alors là, pas de folie. Mais on voit bien que si vous avez des contes qui ressemblent à des fables, qui avec des éléments allégoriques, ben, forcément qu'il y a des allégories qui parfois qui marchent, tout simplement. Il y a des morceaux d'allégories qui marchent. C'est ça qui est formidable avec Kafka, c'est que il y a des voilà localement ça marche, globalement ça ne marche jamais, mais localement ça marche. Dernière remarque, il y a des gens qui voudraient entièrement nettoyer Kafka de toute tentative d'interprétation. Je dis à ces gens, mais où est-ce que vous allez après? Lorsque vous avez interdit toute interprétation, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous regardez quelque chose qui est indéchiffrable et vous dites, voilà, Kafka, c'est une barre d'indéchiffrabilité. Mais si vous faites ça, malheureux, vous reconduisez la position spiritualisante, c'est-à-dire que c'est l'absolu, c'est Dieu, c'est la barre de Dieu qui est là. Donc, vous vous trouvez devant un ou bien, vous admettez une certaine interprétabilité et par des moyens classiques de l'allégorie, parfois, ou bien vous la refusez, mais à ce moment-là, vous reconduisez une position transcendante, c'est-à-dire qu'il y a de la transcendance indéchiffrable. Enfin, le chiffre de la transcendance, c'est l'indéchiffrable. C'est un dilemme. Ou bien. Alors, dans Joséphine, la cantatrice, le texte est paru la première fois, et il est régulièrement intitulé « Joséphine, la cantatrice » ou « Le peuple des souris ». Et il y a un petit papier sur lequel Kafka a noté pour son éditeur, alors qu'il était quasiment mourant, il dit, je sais bien que ces titres avec « ou » ne sont pas très jolis, mais pour moi, le « ou » doit signaler plutôt une balance. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par une balance? Moi, je comprends ça comme ça. Je pense qu'il y a deux façons de lire Joséphine la cantatrice. Soit on lit le texte du point de vue de Joséphine, c'est-à-dire que c'est une allégorie de l'artiste et de Joséphine, c'est son point de vue, soit on le lit du point de vue du peuple des souris. Et à ce moment-là, la perspective change. À ce moment-là, on a, comment dire, un autre sens, ou plutôt un autre champ de suggestion. Et ce « ou bien », auquel Kafka était très sensible, puisque Kafka est peut-être... Si il y a un auteur philosophique avec lequel il a le plus d'atomes crochus, c'est avec Kierkegaard. Donc il a lu ou bien de Kierkegaard, justement. Ce que Kafka fait très souvent, c'est une de ses pratiques presque constantes, c'est effectivement d'arriver à donner deux lectures qui sont tissés ensemble de telle sorte que vous pouvez le lire comme ça ou comme ça. Et si vous le lisez comme ça, vous ne pourrez pas le dire comme ça, autrement. Mais c'est comme le lapin canard, si vous voulez, un peu. Donc, il fait des lapins canards. Lapin canard théologique, on peut dire, je ne sais pas. Alors, c'est le quatrième point, maintenant. J'ai envoyé... Marianne Alphand m'avait demandé d'envoyer un petit abstract de mon intervention. Et j'ai laissé entendre dans cet abstract, je ne sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, moi je ne l'ai pas revu, mais j'ai laissé entendre que Kafka était un philosophe et un moraliste. Après ça, une de mes correspondantes de Mythique, qui est une messagerie de rencontre, m'a attaqué là-dessus, parce qu'elle m'a googlisé, comme on dit, et elle est tombée là-dessus, et elle me dit, je ne comprends pas comment vous pouvez affirmer que Kafka est un philosophe et un moraliste, Kafka est avant tout un écrivain, ou un artiste, je ne me souviens plus de quel terme elle s'est servie, et en tant que précisément il est un artiste, il est bien entendu pas du tout un philosophe et pas du tout un moraliste, surtout un moraliste. Les moralistes, là, c'est le comble. Enfin, alors, bon, j'ai essayé de lui expliquer qu'elle exagérait un peu, que bon, il fallait pas être aussi, rigide, peut-être avec des catégories. Écoutez, bon, oui, je sais, Kafka est un écrivain, c'est un très grand écrivain, bien sûr que. Et notre discussion, finalement, s'est très mal terminée. J'ai dit que je ne voulais plus correspondre avec elle. C'était terminé. Je lui ai dit que j'étais dans une position ou à un âge, je n'avais pas envie de recevoir des leçons sur ce que c'était que la philosophie, la morale. Bon. Alors, ceci dit, elle m'a fait quand même, elle a raison en un sens, elle m'a fait quand même prendre conscience que j'avais écrit une énormité sans trop m'en rendre compte. Et je vais expliquer, donc m'excuser au fond de cette énormité en expliquant au fond ce qui m'a conduit à écrire cette énormité que Kafka serait un philosophe et un moraliste. Ce qui m'a conduit à cette énormité, c'est la façon dont moi, dans ma vie, j'ai abordé Kafka. Et avant de parler de ma vie, je vais vous parler de la situation. Enfin, comment je comprends Kafka maintenant, aujourd'hui, je dirais, je le comprends dans une constellation. Alors, bien sûr, on pourrait mettre beaucoup de noms. Moi, les noms que je retiens, pour moi, qui m'intéressent, que je comprends, disons, en tout cas. Ce sont les noms de Kierkegaard, en effet, j'en ai parlé. Ce sont les noms de Nietzsche. Ce sont les noms de Wittgenstein. Et, alors, ce sera un peu comme un carré, si vous voulez. Il y a Kafka, et puis il y a ces trois noms que j'ai cités. Et puis, il y a un seul nom qui descend, pour moi, qui est Henri Michaux. Bon. Mais Henri Michaux n'a pas... Enfin, si vous voulez, il fait une queue à la constellation. Il n'y a pas tellement de rapport avec Nietzsche, pas tellement de rapport avec Wittgenstein, pas tellement de rapport avec Kierkegaard. Non. Par contre, on trouve, par exemple, dans le recueil Monsieur Plume, je crois que ça s'appelle comme ça, un certain Plume, c'est ça, un certain Plume, on trouve des échos kafkaïens quand même. Et puis à d'autres endroits, on trouve des échos kafkaïens, même dans des écritures comme ça, un peu de fables ou d'histoires un peu tronquées comme ça. Donc il y a littérairement, peut-être pas philosophiquement, mais littérairement, il y a ça. Et moi, donc je vais vous parler de ma vie. Quand j'étais adolescent, disons que chez les moutons, bon, ou on pourrait dire chez le peuple des moutons. Dans le peuple des moutons, si vous voulez, on honorait toujours énormément Kafka et Michaud. Et c'était un culte qui était conjoint. Bon. Après, quand je me suis sorti un peu du peuple des moutons, je suis tombé sur Kierkegaard. Et bon, j'ai vu qu'il y avait Kierkegaard, Kafka. Je me suis dit, mais oui, là, il y a quand même quelque chose. Bon. Et aujourd'hui, donc, et après, j'ai lu, et maintenant, je dis, il y a Nietzsche et il y a Wittgenstein. Et je vais vous montrer, très rapidement, je vais vous montrer justement, comment on pourrait faire fonctionner cette constellation. Je ne vais pas la faire fonctionner devant vous, parce que ça prendrait, je ne sais pas, 4, 5, 6 heures. Donc, nous n'avons pas le temps. Je vais juste vous indiquer des petites possibilités de fonctionnement. Alors, vous allez me dire... quelle drôle de métaphore que de faire fonctionner les constellations. Les constellations ne sont pas du tout faites pour être fonctionnalisées ou pour les faire fonctionner. Au contraire. Vous avez absolument raison, c'est une métaphore absolument contre nature. Et j'ai dû trop repenser à Deleuze et Guattari avec leurs machines. C'est ça qui m'a influencé dans le mauvais sens. Non. J'avance un peu, hein, tant pis. Alors, le chapitre 5, justement, où je vais indiquer un peu je vais essayer d'indiquer comment, pour moi, ça peut fonctionner. Je l'appelle la réalisation. Alors, c'est un concept que j'ai inventé et que j'essaie de travailler à mon modeste niveau. Je vais... essayez un peu de vous donner un peu des idées de ce que pourrait être la réalisation. Pour comprendre ce que c'est que la réalisation, il faut comprendre ce que c'est que le sens. Bon, là, il faudrait évidemment que nous en parlions pendant quelques jours, mais je vais simplifier les choses en m'adressant à Gilles Deleuze de la façon suivante. Gilles Deleuze, vous avez dit que le sens était de la surface. Gilles Deleuze, je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Mais pas d'accord du tout. Je pense exactement le contraire. Je pense, cher Gilles Deleuze, pardonnez-moi, que le sens est ce qui passe d'une surface à une autre. C'est-à-dire ce qui, au fond, se passe dans ce qu'on appelle la traduction, par exemple. Si vous voulez voir un peu passer du sens, justement, regardez une traduction. Vous avez une surface écrite et une autre surface écrite. Et puis, entre les deux, c'est le sens, non? Donc, cher Gilles Deleuze, pardonnez-moi, mais on n'est pas du tout d'accord sur la définition du sens, et le fait qu'on ne soit pas d'accord... ça veut dire aussi que moi, j'envisage le sens précisément comme des trajets dans l'espace, du volume, n'est-ce pas ? Il faut un volume pour qu'il y ait du sens. Et donc, il faut une troisième dimension. Alors, quel rapport ça a avec la réalisation ? J'y viens. On pourrait définir la théologie de la façon suivante. La position théologique consiste à... réserver du sens. C'est-à-dire qu'il y a un sens que je pourrais appeler interdit, le sens interdit. Et le sens interdit, si vous voulez, peut consister par exemple en une traduction qui a été mise sous verre ou gelée, si vous voulez, à laquelle on ne peut plus toucher. Elle est entièrement... prise dans la glace et elle fait un intouchable. Alors, celui qui voudrait, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire fondre la glace, justement, qui a figé la métaphore ? Prenons une métaphore qui vous est familière, peut-être pas comme métaphore, mais comme concept. Celui de loi morale. Moi, après avoir réfléchi pendant quelque temps, je me suis dit, Mais quand même, cette histoire de loi morale, c'est quand même une métaphore, non? Vous le sentez, ça? Vous avez la morale. Et puis, vous vous dites, la morale, ce serait comme une sorte de juridisme, au fond. C'est-à-dire qu'un système de loi, où il y aurait une loi, par exemple, et... C'est-à-dire que la morale est comme le droit. Voilà. Et elle est tellement similaire, analogique au droit, qu'on pourrait dire qu'il y a une loi morale. Enfin, moi, c'est comme ça que je comprends les choses. Mais évidemment, beaucoup de gens ne comprennent pas comme ça. Et même sans être théologien, beaucoup de gens se disent, la morale, on y croit, on n'y croit pas, mais c'est quelque chose quand même. Enfin, c'est pas une métaphore, c'est une barre, si vous voulez, c'est du... Voilà. Et donc, je pense que des gens comme Kafka, et moi évidemment, je m'autorise de lui, se sont mis à... D'abord, à dégeler le gel théologique, à faire fondre le gel théologique. Et ensuite, ils se sont mis à réaliser les métaphores. C'est là que j'en viens à la réalisation. Réaliser une métaphore, c'est... Bon, vous savez qu'une métaphore, c'est un déplacement qui va d'une chose qui est proche à une chose qui est plus loin. C'est méta, on va plus loin. Donc on transporte plus loin. Et dans ce transport, vous voyez que, encore une fois, je suis désolé, mais il y a une troisième dimension. C'est pas en surface, une métaphore. Vous voyez ? C'est méta. Alors, la réalisation, ce serait de prendre la métaphore et puis d'aller encore plus loin, jusqu'à la réaliser. Une fois qu'une métaphore est réalisée, finalement, vous ne la reconnaissez plus comme métaphore. Vous avez une histoire, par exemple, qui a un certain réalisme. C'est vrai que le réalisme est un peu bizarre, ça peut être un peu onirique, par exemple. Hein, mais finalement, vous ne pouvez pas remonter dans l'autre sens. Si c'est réalisé, vous ne pouvez pas remonter vraiment dans l'autre sens. C'est-à-dire que la voie de retour sera en partie obstruée. Je ne dis pas totalement obstruée, mais en partie obstruée. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je vais vous parler un peu de... J'ai eu une idée sur la Bible, sur la Genèse, bon, qui est la suivante. Vous vous souvenez du moment où Adam et Ève sont chassés du paradis terrestre parce que ils ont mangé de l'arbre de la connaissance. En fait, ils ont mangé de l'arbre de la connaissance, on pourrait traduire aussi de l'arbre du jugement, en fait. Voilà. Et Dieu les condamne finalement en retournant contre eux le jugement, précisément, dont ils ont mangé. C'est-à-dire, ils ont absorbé du jugement. Ah, vous avez absorbé du jugement ? Eh bien, je vais vous en foutre, moi, du jugement. Et Dieu, finalement, fait une sorte de miroir et il opère sur les coupables une opération de jugement qui est une opération de métaphore réalisante. La métaphore réalisante, c'est, par exemple, le serpent. On comprend à lire la Bible que le serpent, au départ, est un animal ou un être, c'est difficile à dire, peut-être pas si animal que ça, mais qui pourrait être un peu comme vous et moi, c'est-à-dire quelqu'un de debout. Hein, le serpent est debout. Et lorsque Dieu punit le serpent, il lui dit « Tu marcheras sur ton ventre. » Et Et donc le serpent se transforme en quelque chose qui marche sur son ventre. Donc si vous voulez, la métaphore de la bassesse, c'est-à-dire d'être attaché complètement à la terre, eh bien, intervient comme une punition du serpent, au sens où la métaphore est réalisée sur son corps. Et il est transformé, métamorphosé, donc, effectivement. Donc là, la métamorphose, effectivement, les gens qui ont dit Kafka opère par métamorphose et non pas par métaphore, ont raison de ce point de vue-là. Mais là où ils ont tort, c'est qu'ils pensent métamorphose contre métaphore. Moi, je dis non. Moi, je dis métamorphose, c'est une métaphore réalisée. C'est-à-dire que ça reste dans la ligne de la métaphore, mais ça va plus loin. Et au fond, je me dis, l'opération de Kafka, c'est quoi ? L'opération de Kafka, c'est de prendre justement les métaphores du jugement, sa plus grande opération, sa première opération, pas la plus grande, mais la première, c'est de prendre les métaphores du jugement et de les réaliser. Tribunal, procès, etc. Effectivement, un tribunal, un procès, c'est une métaphore du jugement. Qui dit jugement, vous entendez, il y a des juges, donc. Alors, il y a des juges, il y a des assesseurs, il y a des mises en examen, comme on dit aujourd'hui. Donc, si vous voulez, vous constituez la métaphoricité même du jugement, vous la prenez, et puis vous la réalisez jusqu'à un point où, au fond, vous échappez au jugement. C'est ça qui est formidable, c'est-à-dire que vous allez... Il y a une phrase qui est magnifique, qui est entièrement kafkaïenne, qui est magnifique, c'est une phrase, une phrase tout à fait... tout à fait proche de enfin, qu'il écrit vraiment quand il est mourant et qu'il est vraiment hanté par des démons. Alors, et il dit Kafka peut-être que je vais m'en tirer en je vais pas la retrouver. Je vais m'en tirer, dit-il, en utilisant le cheval de l'adversaire. Bon. Donc ça, c'est typiquement kafkaïen. C'est-à-dire que vous avez un adversaire qui a un cheval. Eh bien, justement, vous êtes à pied. Donc vous êtes foutu en principe. Mais non, vous allez vous débrouiller pour, en quelque sorte, peut-être vous accrocher au cheval. Et il vous emportera alors que le cheval et l'homme qui était dessus étaient là pour vous tuer. Mais non, vous allez vous servir du cheval de l'adversaire. Donc, vous allez vous servir du jugement de Dieu, de la théologie, et vous allez en faire l'issue par où vous allez vous échapper. C'est magnifique, ça. Et on voit qu'il y a une... Comment dire, je vous donne un écho nietzschéen. Quand Nietzsche écrit « Par-delà le bien et le mal », finalement, il a une idée que... Il y a aussi une idée de méta, si vous voulez. Hein. Méta, c'est-à-dire plus loin. Il a une idée, Nietzsche, que en spatialisant les questions, c'est-à-dire en les figurant spatialement, on peut les traiter, c'est-à-dire on peut les... Mais Nietzsche, justement, se sert beaucoup des métaphores, justement. Et lui, il reste dans la métaphore, mais il en fait des espaces. Et donc, il dit, voilà, il y a une région qui s'appelle le bien et le mal, mais vous continuez, et vous avez une autre région qui s'appelle par-delà le bien et le mal, voilà. Vous voyez, c'est pas dramatique. On croit que Nietzsche a voulu faire... C'est un truc démoniaque, surhumain, par-delà le bien et le mal. Non, non. Non, simplement, il faut avoir un peu l'esprit d'exploration, quand même. Enfin, vous n'allez pas rester comme ça, toujours dans votre jardin du bien et du mal. Non. Et vous poussez la porte. Ah oui, mais aussi, c'est très bien. Donc, vous voyez, Nietzsche travaille comme ça. Mais vous voyez qu'il travaille finalement en parallèle un peu avec Kafka, finalement. Enfin, mais stratégie différente. La stratégie de Kafka est plus périlleuse, parce que lui, il va carrément, si vous voulez, sur l'adversaire, au fond. Il va sur la théologie. Et finalement, je dirais, je suis persuadé que Kafka aimait la théologie, comme moi, je l'aime. J'aime la théologie. Mais quand je dis « j'aime la théologie », vous comprenez bien que c'est une phrase qui est impossible à dire, pratiquement. Qu'est-ce que ça veut dire, « j'aime la théologie » C'est insensé. C'est insensé. Je vais vous parler de Wittgenstein. Bon, il y a des gens qui ont dit une fois j'ai lu le livre d'un philosophe qui s'appelle Aldo Gargani, qui est un philosophe italien, un peu comme son nom l'indique, qui est un Wittgensteinien. Bon, il a fait un essai. Dont j'ai un peu oublié le titre, je dois dire, mais dans lequel il montre que finalement des gens comme des écrivains comme Ingeborg Bachmann, Robert Musil bien sûr, puis un tas d'autres écrivains finalement sont, eh ben, il faut bien dire le mot, Wittgensteinien, c'est-à-dire qu'ils vérifient le Wittgensteinisme. Et donc évidemment, le fleuron de la couronne, si je puis dire, c'est Kafka. C'est-à-dire qu'il s'agit de montrer que Kafka valide le Wittgensteinisme. Et je voulais vous lire un petit texte tiré de mon livre « Misère de Dieu ». À ce propos, qui est un petit peu ma réponse à Aldo Gargani, enfin ma réponse, mon dialogue avec Aldo Gargani. Vous savez, dans ce genre de dialogue, évidemment, la personne en face n'a pas le beau rôle, en général. Donc, je vous préviens tout de suite. Ben, c'est un peu la loi du genre. Hein. Le chapitre s'appelle « Usage et signification ». Aldo Gargani est un philosophe de l'étonnement, d'obédience wittgensteinienne. Pour renforcer son propre wittgensteinisme, il essaie de trouver du wittgensteinisme chez Freud, chez Musil, chez Ingeborg Bachmann. Il en trouve même chez Kafka. Selon Aldo Gargani, Kafka met en scène des jeux de langage de type théologique pour faire éclater leurs défauts de signification. Au fond, Kafka adopterait la thèse qui veut que le sens ne soit que de l'usage. Toutes les phrases dont on n'a pas pratiquement ou légalement l'usage n'ont pas de sens. Tel serait le sens de ces deux phrases du journal de Kafka. Je cite Kafka. Autrefois, je ne comprenais pas pourquoi ma question ne recevait pas de réponse. À présent, je ne comprends pas comment j'ai pu me croire en mesure de questionner. Fin de citation. Cette interprétation de Kafka n'est pas fausse dans son principe. Peut-être reste-t-elle trop étroite dans son application. Aussi bien les gens qui, comme Gargani, utilisent l'équivalence entre l'usage et la signification comme une ligne Maginot, finissent-ils par restreindre le sens du mot « usage » comme ils contrôlent avec beaucoup de scrupule l'usage du mot « signification » c'est-à-dire que la plaisanterie n'est pas leur fort. Or, il me semble que la question s'énonce plutôt de la façon suivante. Supposez que je respire dans les questions théologiques une certaine atmosphère raréfiée, une odeur de renfermé qui étouffe. Supposez que je veuille représenter ce qui arrive ainsi dans les étages théologiques, les combles. Il n'est pas question pour moi de représenter Dieu ni la théologie, mais seulement les manières, l'ambiance, le théâtre d'ombre qui vont avec ce genre de questions. Je dois alors nécessairement disposer d'un espace vide, d'un spectre large, d'un médium tel que le confinement puisse y apparaître. Il me faut un mutisme qui ne soit pas un manque de signification, mais seulement le déploiement de la représentation même, large et profond comme une caisse de résonance, silencieux et expressif comme l'ensemble de tous les gestes possibles pour un corps. Un creux néant musicien, un milieu. Lorsque la théologie tombe dans ce milieu, elle y apparaît par exemple d'une façon méconnaissable et muette, sous la figure d'appartements trop petits, détournés d'ailleurs de leur usage et dont quelques fenêtres donnent curieusement sur les bureaux de l'administration. Si l'usage et la signification étaient strictement commensurables l'un à l'autre, on ne pourrait pas user de la signification autrement que d'une manière significative. Ce que Kafka oppose au resserrement angoissant de la signification dans la théologie, c'est une pratique représentative. Il n'y a pas besoin d'affirmer que la théologie n'a pas de sens, car seuls ceux qui ont pathologiquement besoin de sérieux peuvent consommer ce genre de phrases. Même les deux phrases citées par Gargani ont un peu d'écho. Elles sont prononcées par un acteur qui se tient à genoux ou baisse la tête d'une façon expressionniste. Elle n'arrive pas au naturel des phrases de Gargani, qui, pour dire ce qu'il pense, n'a qu'à penser ce qu'il dit. Heureux homme! Ça c'était le sixième chapitre. Ah oui. Il y a sur Wittgenstein, il y a encore ça. C'est un texte que je n'ai, sur lequel je travaille d'une manière un peu kafkaïenne, c'est-à-dire qu'il est toujours inachevé. Ça s'appelle la démoralisation. Ce n'est pas une démoralisation au sens où j'étudierais la perte de morale, enfin, on manquerait de morale. Mais c'est la difficulté, finalement. C'est comme si la... Pour moi, j'ai l'impression que dans les phrases prononcées, si vous voulez, la protection morale a tendance à disparaître, si vous voulez. Donc, la peinture, enfin, morale, disparaît des phrases. Donc, on a des phrases avec plus la gaine morale qu'il est... dont on avait pris l'habitude, au fond. Par exemple, enfin, pour vous expliquer, si quelqu'un dit une phrase avec un sens moral particulier, il dit, il faut pas faire ça, enfin, ça ne se fait pas. Tout de suite, il y a quelqu'un, enfin plusieurs même personnes, qui vont dire, mais comment pouvez-vous dire ça? Mais c'est ça, c'est la morale, là, ce que vous faites. Non? Non, justement. Il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de... Comment est-ce qu'on peut articuler un ton moral? C'est pas possible. Donc c'est ça que j'étudie dans la démoralisation. Je parle du ton moral qui s'efface, si vous voulez. Alors, je vous lis un petit bout de texte d'une des versions de ce livre. Ce chapitre s'appelle La différence, je ne le lirai pas tout, mais... Joseph Mouton, savez-vous ce que je viens d'apprendre, me dit Stanley Cavell. Moi, non, pas du tout. Je viens d'apprendre que la dernière phrase du Tractatus, ce dont on ne peut parler, il faut le taire, était dans l'esprit de Wittgenstein une réponse ironique à la préface du deuxième livre d'Humain trop humain, où Nietzsche écrit, citation de Nietzsche, « Il ne faut parler que lorsque on n'a pas le droit de se taire ». Et ne parler que de ce que l'on a surmonté. Moi. Ah bon ? Cela confirme mon sentiment que dans l'époque moderne, Nietzsche comme Wittgenstein ont des droits à faire valoir sur la même friche de paroles que j'appelle démoralisation. Stanley Cavell. Je ne sais pas ce que vous appelez démoralisation, mais je doute que la reprise d'un point de l'éthique nietzschéenne par Wittgenstein signifie qu'ils possèdent tous deux quoi que ce soit en partage. Bien que la proposition de Wittgenstein puisse passer formellement pour une application particulière de la règle de Nietzsche, il me semble que dans le fond, elle projette de renverser cette règle. parce qu'en l'assujettissant à une instance impersonnelle, ce dont on ne peut pas parler, elle cesse de l'ordonner à l'expression. Par exemple, il y aurait, par hypothèse, quelque chose que je ne surmonterais pas, et cette chose-là me demanderait le silence, en dehors ou au-dessus de mes problèmes d'expression, qui sont toujours aussi des problèmes de qui je suis, etc. Alors, il faut que je termine. Je vais expédier les points 7, 8, 9 très rapidement. Le point 7, je l'appellerai la merveille et l'indéchiffrable. À midi, en fait, de midi à 14 heures, j'ai jeûné avec une psychanalyste. Effectivement, hein, je dis bien, j'ai jeûné avec elle. Et donc elle me dit, qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Elle ne pouvait pas venir, elle le regrettait. Et moi aussi, je regrette qu'elle ne soit pas là. Et elle me dit, qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Je dis, je sais pas trop. J'ai des bouts comme ça, et puis à un moment, je ne sais pas pourquoi, je lui parle de recherche d'un chien, donc c'était un texte un peu de la fin, de assez proche du peuple des souris, parce qu'il y a le peuple des chiens aussi. Et j'ai dit, mais dans ce texte, il y a un truc qui est absolument fantastique, c'est les chiens musiciens. Vous avez entendu parler des chiens musiciens? Je lui dis, ben non, elle me dit non. Mais alors, c'est-à-dire que voilà, alors j'explique un peu à cette psychanalyste, ce que je vais vous expliquer à vous aussi d'ailleurs, par la même occasion, c'est que dans Recherche d'un chien, le narrateur est un chien qui est assez vieux et qui a un peu raté sa vie quand même, il faut dire ce qui est. En tout cas, il n'a pas une grande opinion de lui-même, on voit. Toutes les recherches qu'il a faites, finalement, ça n'a pas été formidable. Il n'a pas réussi à trouver, finalement, ce qu'il voulait rechercher, parce qu'il faisait des recherches un peu métaphysiques. Par exemple, donc, il remarque que les chiens se nourrissent. Bon, tous les chiens, c'est une expérience qui est commune à tous les chiens, la nourriture. Tous les chiens aussi, dans leur vie, se sont posé la question d'où vient la nourriture. Et tous les chiens ont répondu, la nourriture vient de la terre, évidemment. Parce que la nourriture se trouve par terre, tout simplement, n'est-ce pas? Et le chien en question, lui, pose une question beaucoup plus profonde. C'est comment la terre produit la nourriture? Alors, il y a la réponse traditionnelle, si vous voulez, un peu, oui, de la tradition des canine, si vous voulez, hein, la grande tradition canine qui consiste à rappeler la phrase que toutes les mamans chiens répètent à leurs enfants dès qu'ils sont tout petits, c'est arrose la terre partout, tout le temps. Donc ce conseil finalement d'arrosage, si vous voulez, que les mamans chiens transmettent très 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 tôt à leurs enfants, expliquerait que la terre donne des productions parce que la terre est arrosée par évidemment l'urine, hein, on le comprend. Kafka ne le dit pas, mais c'est clair. Ensuite, ce chien qui parle d'une expérience de jeunesse qui a déterminé sa vie, finalement, qui a complètement changé sa vie. C'est l'expérience des chiens musiciens. Alors, il se balade, et puis, à un moment, il tombe sur... Non, ce n'est pas exact, dit Kafka. Plutôt... C'est eux qui sont venus me trouver. J'étais dans une sorte de désir, de pressentiment d'un grand événement. Et puis, ils sont comme sortis de l'ombre. C'était des chiens musiciens. Alors, il y avait un vacarme formidable. Ils faisaient un vacarme formidable. Et pourtant, ce qui était incroyable, c'est que on ne les voyait pas remuer la gueule. Ou parfois, ils sortaient un peu la langue, mais rien qui puisse expliquer cette musique prodigieuse et prodigieusement puissante qui était aussi très attirante. Et au contraire, ce qu'ils faisaient, ces chiens, c'était des sortes de chorégraphies. C'est-à-dire, il y en avait un qui mettait les pattes sur le dos d'un autre, ou des choses comme ça. Ils étaient 7. Et alors, bon, le chien, le jeune chien, essaie de leur parler, de leur dire, mais enfin, qu'est-ce que vous faites ? En même temps, il est très intimidé. Et puis surtout, il y a un truc incroyable, c'est que les chiens ne lui répondent pas. Bon. Alors que nous, les chiens, s'il y a une règle, enfin, qui fait partie de la caninité, c'est que quand on voit un chien et qu'on est un chien, ben on se parle, enfin, on communique. Ça, c'est systématique, je veux dire. Alors, ne pas répondre à un chien quand on est un chien, c'est violer la loi. Il y a pire. Il y a pire, c'est que au cours de leur musique, qui est une chorégraphie finalement, puisque c'est une musique du silence, même s'il y a un vacarme, eux sont silencieux au fond. Il y a pire, à un moment, certains se promènent sur deux pattes. Ah, ça, c'est absolument... c'est obscène, d'abord. Et puis, enfin, ça, parce qu'ils montrent leurs organes génitaux, enfin quelqu'un le suggère, disons. Mais ça ne se fait pas du tout. Quand on est un chien, on ne se promène pas sur deux pattes. Enfin, c'est impossible. Deuxième violation de la loi. Bon. Donc, je j'expliquais ça à la personne avec qui j'ai jeûné. Et je dis, mais ça, c'est, pour moi, c'est incroyable quand on arrive là. Pour moi, c'est indéchiffrable. C'est magnifique parce que, enfin, il y a quelque chose de... J'entre dans une sorte... C'est pas complètement indéchiffrable. Pas du tout complètement. Il y a une sorte de musique, n'est-ce pas, qui est très prenante, comme ce que décrit d'ailleurs le chien ou Kafka. Tout à l'heure, en préparant, je relis le truc. Je dis, mais c'est complètement con, en fait. Ce que tu comprenais pas est évident. Ce sont des chiens de cirque. Voilà. Et il est tombé sur un cirque. Ou, parce que c'est le matin, donc c'est un peu... Non, il est tombé sur une répétition avec la fanfare. En fait, tout simplement, le vacarme, c'est la fanfare. Ou, oui, c'est ça, la fanfare. Et les chiens exécutent, tout simplement, quand, des trucs qu'on leur a appris. Voilà. Donc, il n'y a pas... Là où tu as vu une énigme, il n'y a pas d'énigme. Et c'est même décevant. En fait, tu t'es fait un plan, quoi. Tu t'es fait un... Bon. Après, je continue à lire et je retombe sur une énigme. Alors, je remonte, je me dis, mais non, 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 c'est là que c'est incroyable. Je vais vous lire. Si vous comprenez, vous me le dites. Hein. C'est à la fin, disons, bon... Quand le chien il essaie de faire une expérience cruciale, c'est pour savoir d'où vient la nourriture, parce qu'il distingue deux sortes de nourriture, la nourriture qui vient de la terre et la nourriture qui vient du ciel. Enfin, pas du ciel, d'en haut. Parce qu'il y a de la nourriture qui vient d'en haut. Et les chiens, pour les avoir, souvent font des danses, des incantations, des choses comme ça. Et à ce moment-là, la nourriture vient d'en haut. Bon. Donc, le jeune chien fait une expérience, c'est une expérience de jeûne. C'est-à-dire, il se dit, je vais faire une expérience scientifique, au fond. C'est-à-dire, je vais me mettre dans une forêt, je ne vais pas bouger, fermer les yeux, et je vais voir si la nourriture va me suivre. Parce qu'il avait fait quelques expériences où la nourriture ne tombait pas du haut vers le bas, mais le suivait. Alors, il veut confirmer. Pour confirmer cette expérience, il en fait vraiment un protocole plus radical. Il se met dans un coin et il voit si la nourriture va lui arriver. Si elle va effectivement venir le chercher. Et l'expérience n'est pas concluante puisque la nourriture ne vient pas. Mais, par contre, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe à un moment. C'est ça, je lis juste ce passage. C'est voilà. Je m'évanouis seulement et quand je repris connaissance et levé les yeux, je vis devant moi un chien étranger. Je n'avais plus la moindre faim. Je me sentais très fort. Mes articulations me semblaient souples. mais je n'essayais pas en me levant d'en faire l'épreuve. Un beau chien, mais assez peu extraordinaire, se tenait devant moi. Voilà tout ce que je voyais. Et pourtant, il me semblait voir en lui quelque chose de très étrange. J'étais couché dans le sang. Au premier moment, je pris ce sang pour la nourriture, mais j'eus vite discerné que ce n'était que du sang vomi. Je m'en détournai pour regarder le chien. Il était maigre, haut sur pattes, brun et taché blanc. Il avait un beau regard puissant et interrogateur. « Que fais-tu ici ?» me dit-il. « Il faut t'en aller. » « Je ne puis pas partir à présent, » lui répliquai-je, sans plus m'expliquer. Comment tout lui expliquer, en effet, au surplus, il semblait pressé. « Va-t'en, je t'en prie, » reprit-il, et il levait impatiemment, l'une après l'autre, ses pattes. « Laisse-moi, » dis-je, « poursuis ton chemin sans t'occuper de moi. Les autres non plus ne se soucient de moi. » « Je t'en prie pour l'amour de toi, » me dit-il. « Prie au nom de ce que tu voudras, » répondis-je. « Même le voulant, je ne puis m'en aller. »« Qu'à cela ne tienne, » fit-il en souriant. « Tu peux marcher, c'est justement parce que tu sembles faible que je te le demande maintenant de partir sans te presser. Si tu tardes, il te faudra courir, etc. etc. » À la fin, le chien lui dit qu'il est un chien de chasse et qu'il ne peut pas chasser si lui reste là. Et donc, il est un chien de chasse, ça veut dire aussi que il est un chien qui, structurellement, est fait pour chasser notre narrateur de la place où il est. Je ne répondis plus car je m'apercevais et une nouvelle vie me transperça, la vie que donne l'épouvante. Je constatais à des détails infimes, imperceptibles, mais sans doute à d'autres que moi-même, qu'au fond de sa gorge, le chien commençait à chanter. « Tu vas chanter !» dis-je. « Oui, » dit-il gravement, « je vais chanter tantôt, mais pas encore. Tiens-toi prêt, en tout cas. »« Tu as beau nier, j'entends déjà, » dis-je tout tremblant. Il ne répondit pas, et je crus alors observer quelque chose qu'aucun chien n'avait vu avant moi, du moins la tradition n'y fait-elle nulle allusion, et dans un indicible sentiment de terreur et de honte, je me cachai la face dans la flaque de sang étalée devant moi. Je croyais en effet m'apercevoir que, sans le savoir encore, le chien déjà chantait, et que, bien plus encore, et séparé de lui, le chant flottait dans l'air en vertu d'une loi propre, s'élevait au-dessus de lui comme s'il n'avait rien à faire avec lui pour voler vers moi seul. Voilà. Huitième point, au fond, je préfère le château. Je ne développe pas. Neuvième point. Mon ex-femme me demandait hier ce que j'allais faire aujourd'hui. Et j'ai dit, non, je sais pas trop, en fait. Et pour lui expliquer ce que je comptais faire, je lui ai dit, il me vient une image. J'ai dit, voilà, je pense que un récit de Kafka, quand on est dans un récit de Kafka, oui, quand on est dedans, voilà, c'est comme si on était sur une île. On sait que c'est une île. Mais si on va dans une direction, on ne trouve pas le rivage. Si on va dans une autre direction, on ne trouve pas le rivage. On ne trouve jamais le rivage. Et bon, je vais en rester là.